Alors, Julien, Fred, il y a un truc sur lequel il faut qu'on démarre. C'est qu'il y en a un d'entre vous qui doit bien avoir conscience qu'il va perdre Pogba, et il y en a un autre qui doit bien avoir conscience qu'il va bientôt l'avoir.
Ouais, je commence à préparer sa venue, hein, déjà. Hein.
J'ai vu que t'as fait jouer le fils Zidane dans les buts, là.
Tu vas te faire une crête ou pas, Fred?
Ouais.
Tu dirais bien une crête, Fred.
Une crête, je sais pas, mais en tout cas, Pogba, il est parfait. Il parle déjà très bien l'espagnol. On l'avait découvert cet été en Coupe du Monde, vous vous souvenez? Quand un journaliste péruvien l'avait interviewé. Ouais. Il parle très bien l'espagnol. Et puis là, je pense que on peut vraiment dire que Zidane, c'est pas qu'il a ouvert la porte, c'est qu'il a ouvert la porte, la fenêtre, la porte de la cave, le garage, enfin voilà, enfin c'est... Bon, il est évident que c'est une stratégie très claire de la part de Zinedine Zidane, que les négociations sont déjà en route et que Zizou a mis deux sous dans la musique histoire de pousser un petit peu plus ce transfert. Aujourd'hui, et j'ai pu en parler avec des gens du club qui étaient quand même assez étonnés de voir l'insistance et la manière très claire dont avec laquelle Zidane a parlé de ce transfert. En tout cas, de ce joueur pour un transfert possible, voire probable au Real Madrid. Jamais depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid, Zidane n'avait parlé en termes aussi élogieux d'un joueur qui ne porte pas son maillot, quoi. Donc, c'est voilà, il y a quelque chose qui est en route. Et je passe la balle à Julien. Mais je pense sincèrement que il y a quelque chose qui a démarré et la négociation elle doit déjà être en route, parce que sinon c'est pas possible que Zidane parle de cette manière.
Julien. Oui, mais c'est surtout Paul Pogba qui a ouvert la porte en premier, parce que la question qui lui est posée à Clairefontaine lors du rassemblement de l'équipe de France, il peut enterrer le sujet tout de suite en une seule phrase. Il peut dire, moi je suis très heureux à Manchester United, je suis pas ici pour parler de mon avenir. Point barre. Au lieu de ça, il répond en disant, mais bien sûr, c'est un rêve, chaque joueur rêve d'aller jouer au Real Madrid un jour, c'est mon cas, je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé. Mais cette réponse-là, si à la question il répond juste, moi je suis très heureux à Manchester United, j'ai encore 2 ans de contrat, je suis pas là pour parler de mon avenir, c'est terminé, on en fait plus, c'est fini.
Ouais, mais c'est une stratégie. Tu sais Julien, la stratégie du Real Madrid de Florentino Pérez, c'est très simple. Le Real Madrid est toujours le gentil. Le Real Madrid ne va jamais débaucher des joueurs d'autres équipes. Jamais, c'est pas le genre. Oh. C'est vraiment le club. Attends, mais c'est de l'humour, c'est de l'ironie. C'est un club. Non. Non. Ah ben c'est le joueur qui veut venir, ben on va négocier alors. C'est toujours le joueur qui fait le premier pas. Et donc la stratégie la semaine dernière de Paul Pogba, tout simplement le Real dit, ben voilà, tu commences à parler de ça, quoi. Il faut faire monter la sauce, il faut que tu fasses le premier pas. Vous savez comme le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. C'était Schoenberg, c'est ça, ce chanteur. Donc, la stratégie, moi je l'ai vu sur des beaucoup de joueurs comme ça, même sur Zidane à l'époque, sur Beckham, et puis plus récemment sur James Rodriguez. Voilà, il y a une manière de fonctionner, il y a un modus operandi et qui est totalement respecté par Pogba et par le Real. Pogba fait le premier pas, le Real envoie des signaux, et puis après, Florentino Pérez arrive en disant, votre joueur veut venir, on va négocier. Voilà. Mais est-ce que Manchester United va négocier? Et là, je te repasse la balle, le cher Julien. Est-ce que Bale, ça vous intéresse? Parce que ça peut être dans un bon petit package, là, un petit échange très sympathique.
Alors, Bale, c'est non, parce que la politique du club, c'est de recruter des jeunes joueurs, enfin, plutôt jeunes, en dessous de 25 ans, ce qui n'est pas le cas de Gareth Bale, surtout au salaire qui est le sien actuellement, et vu son état physique ces dernières saisons où il a quand même raté pas mal de matchs à cause de ça.
Beaucoup de blessures.
Donc c'est pas la priorité du club, même au niveau profil.
Mais pourquoi après, c'est ça l'objectif de Manchester? En fait, un soir, il faudrait quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur ce club et que tu nous expliques
un des plus riches du monde qui pourrait donc
ce que c'est que la politique
pourrait donc recruter du lourd.
Depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup beaucoup changé, que gagner n'est pas forcément la volonté première. C'est très bizarre ce qui se passe à Manchester et ce vers quoi ils vont.
Tu as raison. Après, ça tient beaucoup aux propriétaires américains,
bien sûr,
on t'explique.
C'est un peu pour ça que
quand
je
tu as un,
c'est un business,
quand
ouais.
tu as tu vois une conférence de presse par téléphone avec Ed Woodward, le patron du club, lui qui gère le club au quotidien, qui te dit que même si à l'époque ils étaient 6e au classement et que En revanche, ils gagnaient plus d'argent qu'ils n'avaient jamais gagné dans leur histoire jusqu'à présent, et que ben ils étaient très contents. C'est là où tu sens la différence. Après, l'arrivée de Solskjaer peut peut-être changer un tout petit peu, a déjà changé d'ailleurs cet état d'esprit-là. Solskjaer lui-même veut des joueurs plus jeunes que ce que Mourinho, par exemple, avait pu faire au niveau du recrutement ces dernières saisons. Et le changement de politique, il est peut-être là, et le changement d'état d'esprit aussi. Après, ils veulent s'appuyer un peu plus sur leur centre de formation, ce qui, encore une fois, n'avait pas été trop le cas ces dernières saisons, à part Marcus Rashford, mais qui est quand même, voilà, pour pas faire jouer Marcus Rashford, il fallait vraiment être bizarre, mais sinon, tu sens qu'avec Solskjaer, il y a quelque chose qui est en train de changer, de se passer avec le soutien de Sir Alex Ferguson derrière, qui est différent des années Moyes, Van Gaal ou Mourinho, mais t'as raison, c'est un sujet fascinant et passionnant, et moi je pense, juste pour finir sur l'histoire Pogba, que c'est très possible qu'il parte au Real cet été, c'est peut-être possible qu'il en ait très envie aussi. Je pense que, comme on l'a dit encore aujourd'hui, que Mino Raiola n'est plus un problème pour Florentino Pérez et pour le Real Madrid, alors qu'il y a eu une période, Fredo, tu seras d'accord avec moi, où il a vraiment été persona non grata.
Il a été blacklisté, ouais.
Alors voilà. C'était il y a 2 ans et demi, c'était l'été où Pogba quitte la Juve. Zidane avait vraiment envie de Pogba, mais ça n'a pas été possible parce que le contact avec Raiola était vraiment un problème. Mais à partir du moment là où Florentino Pérez ne peut plus rien refuser à Zidane et que Pogba fait partie de la liste des 5-6 joueurs qu'a demandé l'entraîneur français pour accepter de revenir sur le banc, eh ben Florentino Pérez, il enverra Rosarel Sanchez, le directeur général, pour négocier s'il lui veut pas parler avec Mino Raiola. Mais Pogba, franchement, s'il y a bien deux joueurs que je vois la saison prochaine au Real, c'est bien sûr Eden Hazard, qui devrait être la première annonce faite avant la fin de la saison. Et là, je voulais t'interroger là-dessus aussi. Et Pogba. Eden Hazard.
On va les laisser les deux là, ils sont leur petit mercato.
Mais oui, mais c'est leur petite carte. Mais franchement, Hazard, il faut voir la politique de communication du Real Madrid. C'est que bon, l'effet Zidane là, il est bien, il se l'annonce. Mais la saison est encore très longue. Et donc, il faut d'ici à un mois pouvoir annoncer la venue de quelqu'un. Et je pense qu'Hazard
pourrait
être annoncé
dans un
mois.
Quoi.
Ben c'est faut occuper, il y a du, c'est le vide. Le Real Madrid ne joue rien. Les matchs sont mauvais. Il y avait hier soir 49 000 spectateurs au Bernabéu. Donc
ouais, il faut déjà commencer à faire rêver.
Ah ben voilà, complètement. Il faut continuer. C'est reparti avec Zidane. Mais si tu annonces Hazard d'ici un mois, ben ça comble un petit peu le trou. Qu'est-ce
Hazard,
pense,
je pense
Julien,
que
toi, tu penses
Oui, je pense fait, que Hazard c'est fait. Pour Pogba, la dernière petite chose, c'est que n'oublions pas qu'il est bien plus qu'un joueur de foot pour Manchester United. Aujourd'hui, c'est lui l'emblème marketing de ce club. Ils ont construit, on parlait tout à l'heure du fait qu'ils soient plus intéressés presque par leurs recettes financières que par les résultats sur le terrain. Pogba, c'est l'image de marque de Manchester United. À chaque fois, je le dis, mais dans les programmes du match, quand tu vas à Old Trafford pour un match, il est quasiment dans toutes les pages, dans toutes les pubs du magazine du club.
Ouais,
il est à l'extérieur.
Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est l'emblème d'Adidas aussi.
Voilà, c'est ça. Va en trouver. Donc, ce qui est par ailleurs.
Aussi, oui, mais
voilà,
pas
très bien. Ce qui arrange le Real aussi. Ce qui arrange le Real.
Oui.
Mais après, c'est pas facile de trouver un autre Pogba avec le même poids marketing.
Et le même équipement.
Avec la même influence sur le terrain aussi. Parce que tu peux en trouver un joueur marketing, mais qui est moins fort sur le terrain. Ou tu peux trouver un joueur qui est peut-être au niveau de Pogba sur le terrain, mais qui est moins marketing. Avec lui, ils avaient trouvé les deux. C'était parfait pour eux.
Et au Real, donc Pogba au milieu, devant Eden Hazard, et Rabiot qui prend la place de Modric. Alors c'est fait ça ou pas encore complètement?
Non, mais simplement ce que je sais, c'est que le cas Rabiot est très appétissant. Oui. Un joueur gratuit en fin de saison.
Non, mais parce que comme j'ai vu des équipes types où ils prenaient la place de Modric, c'est pour savoir si Modric partait.
Modric a failli partir la saison dernière.
À l'Inter,
donc il peut partir.
À l'Inter, je pense qu'il va pas. Moi, je pense vraiment que Kroos.
Kroos va
partir
en Allemagne.
Modric n'a plus 50 matchs dans les jambes, vraiment. Donc Modric, c'est un joueur qui va être utilisé.
Mais il y a Ceballos qui est très bon aussi.
Ouais, mais avec Zidane, ça se passe pas très bien. Donc
ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Et c'est un bon joueur.
Mais en fait,
pourtant,
il faut voir une chose, c'est que Zidane veut deux équipes. C'est-à-dire, il veut pouvoir refaire le coup de la saison 2016-2017 où il gagne la Liga et la Ligue des Champions, où il y a quasiment deux équipes. C'est-à-dire qu'entre vous vous souvenez cette défaite en Liga contre le Barça avec le but de Messi à la dernière minute, 3 jours après, Zidane joue le titre à la Corogne et il fait 8 changements parce qu'il a l'effectif pour faire 8 changements. Et donc ça c'est avec les Rames, les Morata, etc. Donc lui il veut c'est pas un 11 qu'il veut construire, c'est un vrai gros effectif.
Et qui seraient les autres crues alors?
Ah ben l'objectif numéro 1 et le rêve absolu c'est Mbappé, ils sont comme des fous quoi, mais comme des fous.
Mais Mbappé ça va être compliqué, mais pour prendre un attaquant.
Ah ben, c'est compliqué, mais de toute façon aujourd'hui je pense qu'on est dans la troisième histoire de Florentino Pérez au Real Madrid. Il y a eu trois étapes. Nous entrons dans la troisième étape. La première, rappelez-vous, c'est 2000, c'est Figo, c'est Zidane,
Beckham.
C'est Beckham, c'est Ronaldo Nazario, c'est Owen. Voilà, c'est cette, la période des Galactiques. Florentino Pérez démissionne en 2006, revient en 2009. C'est Kaká, c'est Cristiano Ronaldo,
Benzema.
C'est Benzema. Et là, on est, on ouvre le troisième chapitre avec voilà des joueurs qui semblent incroyablement difficiles, mais le Real Madrid a beaucoup d'argent, a une envie folle, et puis voilà tout le travail de recrutement qu'ils n'ont pas fait ces dernières années parce qu'ils gagnaient, et ben ils vont le faire maintenant.
Il faut qu'ils achètent un neuf, hein, surtout.
Ah bah non, bah, c'est-à-dire qu'il y en aura, il y en aura, il y en aura.
Bah, en ce moment, c'est
non, il est tout seul.
Moi, hier soir, j'avais les deux matchs, là. Je regarde, j'ai bien regardé. Hier soir, il a fait un match extraordinaire.
Non, mais il est sauve,
il
est sauve.
Il fait deux passes décisives, un but,
Et ce soir, là,
c'est Benzema qui gagne le match.
Il est sauve, il est sauve.
Et le président de l'Atlético qui dit qu'Antoine Griezmann part pas à 100%.
Mais il a des 1000%. J'ai eu l'occasion de voir Enrique Cerezo la semaine dernière. On en a discuté. Il me disait non, mais tu sais Antoine, il a pris un coup, comme nous tous, il a pris un coup sur la tête avec cette élimination. Mmh. Ça va, il va se calmer et ça ira. Bon, voilà ce que me disait Cerezo il y a deux jours.
Là, je vais bientôt le revoir à la télé espagnole. Il vient de dire à 100%, il bougera.
Oui, il a dit ce soir. Il a même dit à 1000%, il reste.
Moi, je le vois pas partir.
Voilà. Mais moi je vois ce qu'il m'a dit à moi en off. Me dit écoute, il a un peu perturbé en ce moment, mais ça va s'arranger. Mais
pourquoi il partirait, Fred, en plus avec le contrat, le salaire qu'il a.
Il l'a dit.
Pardon.
Parce que Jérôme Rantaine l'a dit.
Et que nous on a confiance en Jérôme Rantaine.
Ouais, d'accord.
Non, mais c'est vrai que.
Mais sa femme va partir de cette manière, donc c'est réglé.
De toute façon, non, mais c'est très simple, c'est une lutte, même si on parle de sa lutte. c'est le combat entre l'idée de son père qui est, il faut qu'il parte, et l'idée de sa femme qui est, il faut qu'il reste. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Puis ah, Antoine, moi je l'adore.
Bien qu'il ait une idée lui sans son père.
Ouais, moi j'adore Antoine hein, vraiment, mais c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison avec lui, et donc il a parfois des petites des sautes d'humeur dans ses décisions comme ça qui sont un petit peu difficiles à suivre. Mais pour l'instant, l'Atlético n'est pas trop.
Il est né
quand ? Oui, peut-être, ou Gémeaux. Donc, mais c'est en tout cas ça va beaucoup bouger en Espagne.
À l'Atlético aussi, hein, parce qu'il faut qu'ils refassent. Ils ont un peu foiré leur dernier mercato. Il y a Hernandez qui part, Godin qui part,
va falloir reconstruire une défense. Radio Mercato toute la soirée, il s'est pas rien passé dans vos championnats là.
J'y arrive doucement, Daniel. On a encore largement de temps.
Un champion que c'est bouclé.
Tiens, j'ai juste Vessal qui nous dit Manchester est devenu une copie d'Arsenal au niveau ambition. Rien à faire dans les
sportifs. C'est vrai,
mais il y a beaucoup.
Il faut juste faire du blé.
Oui, mais le business.
Alors Arsenal justement gagne quand même ce soir. Si tu veux en dire un mot, Julien. Face à Newcastle.
Ouais, une victoire vraiment convaincante contre Newcastle à domicile, 2-0, même si le score reflète pas leur domination et la mainmise sur le match qu'ils ont eu du début à la fin quasiment. Un but de la casette, un joli but d'ailleurs avec Pierre-Emerick Aubameyang, pardon, à la passe d'Es. Aubameyang qui était sur le banc, ce qui était un peu surprenant au coup d'envoi, qui est entré en cours de jeu. Un très bon Mesut Özil aussi. Et cette équipe d'Arsenal,
bon
10e victoire.
Wow.
Ouais, un très bon Mesut Özil, ouais.
Oh là là.
Alors, souvent contre ces équipes-là.
Ouais.
Il avait été très bon contre Leicester, par exemple, aussi à l'Emirates, plus tôt dans la saison. C'est toujours pareil, c'est toujours contre les équipes plus huppées, ouais. Où il est sous pression, où il faut vraiment qu'il fasse quelque chose d'un petit peu de magique à chaque fois, où il a plus de mal. Mais 10e victoire d'affilée à domicile en première ligue. Ils reprennent la 3e place, c'est la première fois depuis 2 ans qu'ils sont 3e en championnat. N'oublions pas hein, qu'au mois de janvier, ils ont eu jusqu'à 5 points de retard sur le 4e. Et en février, ils avaient 10 points de retard sur Tottenham. Et là, ils ont 2 points d'avance sur Tottenham et sur Manchester United. 3 sur Chelsea.
Ils peuvent se faire une fin de saison passionnante, les Arsenal.
Ouais. Tout à fait. Alors, ils ont quelques matchs à l'extérieur un peu compliqués à Everton dimanche, par exemple, à Wolverhampton après, à Watford aussi. Mais sinon, comme on l'a souvent dit dans l'émission, ils ont plus de grosses équipes à jouer, contrairement à Chelsea, par exemple, qui va à Liverpool, à Manchester United, qui va affronter City dans le derby, et puis aussi à Tottenham,
qui après avoir perdu, a quand même laissé passer une vraie occasion contre Liverpool, parce que sur la fin,
ouais,
en contre.
Tout à fait.
Alors on va en parler.
Qu'est-ce qu'ils ont eu comme occasion avant la boulette de Lloris?
On va en parler dans quelques instants justement de ce duel entre City et Liverpool, plus le reste de l'actu espagnol évidemment. C'est tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois,
Daniel Riolo est là, Jonathan Macardy également, plus Fred Hermel et Julien Laurence. Et oui, on a une demi-équipe de drôle de l'âme ce soir, mais on retrouvera Simone Rovira et David Lortho dans la semaine, bien sûr. Alors, avant de repartir en Espagne, la lutte, c'est donc à distance entre Liverpool et City. Julien, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end, justement, les concernant ces deux-là?
Eh ben c'est surtout ce but hein, à la dernière minute hier de Liverpool, le but contre son camp d'Alderweireld dans ce match contre Tottenham, comme l'a dit Daniel juste avant la pause. Bah, il y a la boulette de Lloris hein, bien sûr,
suite à une énorme boulette de Lloris.
Tout à fait, Lloris qui effectivement doit capter facilement la tête assez molle de Mo Salah. Et qui après, t'as vu, se rerate. Donc une fois qu'il a relâché le ballon, qui rebondit sur la jambe d'Aldeverel, qui va pour franchir le ballon, il essaye de la récupérer. Mmh. Alors qu'Aldeverel peut encore dégager le ballon, et il rate le ballon encore, Lloris avec sa main droite. Et effectivement, c'est un but non seulement qui pourrait coûter très cher à Tottenham, parce que c'est quand même leur quatrième défaite lors des cinq derniers matchs, avec un match nul contre Arsenal étant le cinquième. Donc c'est vraiment une période de crise pour Tottenham, qui maintenant... même pas simplement pour finir troisième, mais pour finir dans le top 4, c'est chaud pour eux, avant un déplacement notamment à Manchester City. Et puis surtout, dans la course au titre, effectivement, entre City et Liverpool, cette victoire, inespérée pour Liverpool, parce que, donc, comme encore une fois le disait Daniel avant la pause, Klopp joue son va-tout à un partout en seconde période, où il passe en 4-2-4. C'est quand même à domicile contre une équipe comme Tottenham qui va tellement vite vers l'avant.
Ensuite, c'était chaud.
Et donc t'as trois actions super chaudes, notamment la plus grosse hein, celle de Moussa Sissoko, 2-1 avec Son contre Van Dijk. Alors c'est le débat très intéressant aujourd'hui en Angleterre sur la manière dont Van Dijk défend sur ce 1-2 pour lui, donc parce que il a été question beaucoup de cette action là ce week-end en Angleterre, avec beaucoup de gens qui disent Van Dijk a parfaitement défendu. Donc pour les gens qui ont pas vu, les auditeurs qui ont pas vu l'action, il attend, il se positionne entre Sissoko et Son, il attend, tout le monde comprend bien que Sissoko veut passer le ballon à Son et qu'il sait plus trop quoi faire. Sissoko, il finit sur son pied gauche, il tire au-dessus. D'autres gens ici en Angleterre disent que Van Dijk finalement ne défend pas si bien que ça, parce qu'il laisse le champ du but ouvert à Sissoko, qui s'il avait pas été bidon, il aurait au moins frappé, il aurait au moins cadré.
Ça a beaucoup parlé ici aussi, Julien, et de cette action. Et certains disent quel geste défensif extraordinaire de Van Dijk. Bon, Van Dijk est un super défenseur, je l'adore, il est fantastique, tout ce que tu veux. Si demain il me dit, j'ai fait ça en évitant donc par anticipation la passe possible à Son et en emmenant Sissoko exprès sur son pied gauche, parce que déjà il a un mauvais pied droit, donc son pied gauche c'est encore pire, et je sais que jamais il va mettre
arrête
le but.
Dur, arrête.
Non mais je suis en train ouais, de dire, si jamais il me dit ça, qu'il a anticipé sur le fait qu'il serait pas capable de finir, alors là je dis c'est le geste défensif de l'année. Mais peut-être même du siècle. Mais comme je suis pas sûr qu'il se soit dit ça, je pense plutôt qu'il a fait une sorte de pari. Il s'est dit je vais rester entre les deux, et ça ce serait également très intelligent. Je vais le forcer à prendre une décision et à y aller vers le but. Et Sissoko a pas été capable de terminer pied gauche, mais c'est parce que ça tombe sur Sissoko. Sinon le geste défensif de Van Dijk, si c'est un attaquant à moitié habile, on n'en parle pas parce qu'il y a but.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Après, j'adorerais que Van Dijk l'explique. En fait, la réponse quand on fait ce genre de débat,
c'est
l'acteur qui devrait nous la donner. Si Van Dijk nous explique ce qu'il a voulu faire, bah là, on aura un témoignage génial et...
On l'a pas eu sur RMC.
Je sais pas si quelqu'un lui a demandé.
Non.
Mais ce qu'il a voulu faire.
Non, il est sur la même ici en Angleterre, on lui a pas posé la question.
Ce qu'il a voulu faire, c'est ça qui est. En tout cas, il a voulu faire quelque chose, et c'est ça qui est fantastique. Il y a eu chez lui la volonté de tenter un truc. Genre, je me mets entre les deux, ça va troubler l'autre, il va plus tellement savoir quoi faire, il va être obligé d'y aller. Et c'est vrai qu'en même temps, si c'est okay, obligé d'aller pied gauche, encore que si vraiment il est habile, il a l'espace de mettre une mini accélération et même d'enrouler pied droit, parce qu'il lui laisse quand même beaucoup d'espace. Hein.
Ouais, c'est vrai.
En tout cas, voilà, il y a toujours cette lutte.
Mais c'était une phase très intéressante.
Toujours cette lutte à suspense en tête du championnat d'Angleterre, c'est plutôt sympa.
Ouais.
Alors qu'il n'y en a plus en Espagne, hein, bien sûr, comme Fred nous l'a dit.
Est-ce qu'il reste intéressant en Espagne dans cette fin de saison, Fred?
La 2 et 3e place.
À part les mercato.
Non, bah le Barça qui va gagner la Ligue des Champions.
C'est les autres places. 2-3-4.
Non, mais en fait, non, mais sérieux, non, c'est même pas. Non, c'est la 4e place.
Ouais.
C'est qui va accrocher la place
parce que ça va être un petit club genre Getafe ou Alaves.
Ouais, Getafe se sont fait taper par les Ganes. Moi, j'aime beaucoup les Ganes chez eux parce que c'est un vrai derby Madrid, c'est le derby,
eh oui,
le derby
oui.
De ce qu'on
en
appelle
même temps, Valence
la ceinture
et Séville
rouge.
Peuvent revenir hein Fred hein.
Mais Séville,
pourquoi
Valence,
la ceinture rouge
parce qu'en fait, c'est la ceinture ouvrière, en fait, cette zone sud de Madrid où il y a beaucoup d'usines etc. c'est un peu
c'est comme les banlieues rouges à Paris, il y a une vingtaine d'années.
Exactement. Donc là, les Ganès, Rétafé, qui sont des villes ouvrières.
C'est comme s'il y avait Ivry, Créteil, quoi.
Et ben voilà, un truc dans le genre, exactement.
Ah,
et les Ganès a gagné.
C'était pas ça, autour de Paris, les années dont tu parles, c'était Malakoff.
Montrouge.
Pour le Milan-Cour.
C'était ça.
Ah, les... le stade Lénine de Malakoff.
Oui, bien sûr. Voilà.
Ah oui, c'est vrai, ça, il existe toujours.
C'est vrai, il y avait vraiment un stade Lénine.
Il y a toujours à Malakoff, il y a un stade Lénine.
Maintenant, ça a complètement changé. C'est quand même incroyable. En France, on a eu un truc.
C'est incroyable.
Mais d'ailleurs, il y a encore une station qui s'appelle Stalingrad.
Bah oui, oui, oui.
C'est complètement délirant. Il y a qu'en France que on a ce culte pour l'extrême.
Mais il existe toujours, Daniel, je le signale, le complexe sportif Lénine de Malakoff.
Existe encore.
Bien sûr.
C'est dingue. C'est comme s'il y avait un
stade Hitler.
Hitler.
Ouais, bien sûr.
Voilà, c'est la France.
Mussolini.
Oui, pareil.
Bon, bref, c'est pas vraiment le sujet en fait, hein, mais c'était là, on parlait de Rétafé, et on est c'est vrai que tu parles de Leganés Rétafé, t'as arrivé au stade Lénine de Malakoff.
C'est dingue, Rétafé, c'est quand même, Rétafé, c'est quand même pas jojo à avoir joué, hein.
Ah non, mais c'est horrible.
C'est une des équipes, j'ai regardé dans l'ensemble des cinq grands championnats, c'est l'équipe qui a le plus faible taux de possession de ballon. Ouais, et ils sont quatrième.
Mais c'est Rétafé, on va dire que c'est l'Atlético du pauvre.
Ouais, vraiment du pauvre, hein.
Vraiment
du caniveau.
Non, mais c'est moi, j'aime pas du tout Rétafé. En plus, il y a personne dans le stade. Enfin, il y a pas grand monde dans le stade. Il y a un vent terrible. Enfin, c'est terrible. Je déteste y aller. Autant les Ganes, j'adore. Autant Rétafé, c'est pas très, très excitant. Mais Rétafé, ils vont au moins accrocher l'Europa League.
Mais il y a le sosie de Nicolas Villas sur le banc, donc c'est.
Exactement. José Bordalas, qui est un très bon coach, un peu militaire, mais après, moi, le football, c'est un spectacle. Ok, mais chacun a le droit de jouer comme il veut, hein, tant qu'il respecte les règles.
Oui, bien sûr.
Rétafé fait ce qu'il peut avec ses moyens. Mais voilà, mais je voulais pas vous parler de Rétafé, je voulais vous parler du Celta Vigo, parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi comme club, parce que vous savez, on est dans une période de football ultra mondialisé. On parle de plus en plus d'une Ligue des Champions 2024 qui va finalement se terminer, on le sait tous, par une Ligue européenne qui sera quasiment fermée. Et puis on se dit aujourd'hui qu'avec tous ces transferts qui sont hyper rapides, etc., que le football à la papa, que l'amour du maillot, vous savez, cette expression, l'amour du maillot, voilà, ça n'existe plus vraiment. Et quand j'ai vu ce week-end, je l'ai vu moi et ça a ému toute l'Espagne, le Celta Vigo a perdu pendant 3 mois Iago Aspas. Vous savez qu'il avait joué
à Liverpool,
très très bon attaquant. Iago Aspas a été blessé pendant 3 mois. Pendant ce temps-là, c'est son équipe qui allait déjà pas bien, s'écrouler.
Ah, c'est une dégringolade, même, là.
Ah, ben, ils sont toujours relégables, là. Et ce samedi, il y avait un match décisif contre un autre grand d'Espagne,
relégable aussi.
Non plus, qui s'appelle Villarreal. Villarreal menait 2-0 sur la pelouse du Celta. Autant dire que le Celta, vraiment, c'était, là, vraiment, c'est le dernier wagon à accrocher, quoi. Le Celta était mené 2-0. Iago Aspas avait fait son retour. Il met 2 buts, dont le pénalty en toute fin de match de la victoire. Il est remplacé à 2 minutes de la fin. Les coéquipiers tiennent la balle, etc. Le Celta Vigo s'impose. Le Celta Vigo, aujourd'hui, au moment où je vous parle, peut vraiment lutter et pas décrocher pour pouvoir rester en première division. Et là, vous avez Iago Aspas. Vous savez, c'est millionnaire, c'est le garçon qui a beaucoup d'argent, qui éclate en sanglots, mais comme si c'était un gamin, quoi. Et cette image-là, elle a provoqué beaucoup d'émotions en Espagne en disant, le vrai football, où un mec qui est quand même international, qui a joué à Liverpool, qui est millionnaire, peut être ému comme ça. Puis en plus, c'était les larmes à gros bouillons. Vous savez, il n'arrivait pas à se calmer tellement il était ému de ce qui se passait parce qu'il voyait qu'il avait pu aider son équipe à peut-être sortir.
Oui, c'est très rare. C'est quelque chose qu'on voit quasiment plus.
Voilà. C'est-à-dire une implication personnelle qui est un point rare, oui, on peut le dire.
Mais je vais te dire, je suis même,
et ça fait du bien. Et ça
fait j'ai même le sentiment, je sais pas, peut-être je dis une connerie, mais que c'est qu'en Espagne peut-être qu'on peut encore voir ça. Il y en a de moins en moins. Et c'est l'ancrage culturel du foot est tellement fort que c'est peut-être
en
encore
en Italie aussi.
En Italie de moins en moins. Il y a moins de passion.
Ça existe toujours. T'as toujours des.
En Argentine, par exemple.
En Argentine, si. D'ailleurs.
Je parlais en Europe.
Ouais.
Je parlais en Europe.
D'ailleurs, attendez, je fais une parenthèse.
Si en Italie, dans les petits clubs,
je fais une parenthèse.
De mec encore.
Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dimanche en Argentine.
Je voulais en parler.
Voilà. Dans les news. Ouais. Bon, on en parle après.
Avec Lissandro
Lopez et Milito, directeur sportif, et un super entraîneur, Edouard Coudet. Mais c'est ce que fait Lissandro Lopez là-bas depuis longtemps, c'est génial. Diego.
D'accord.
Bon, attends, on va en parler dans quelques instants. Parce qu'on n'a pas tout à fait fini quand même sur l'Espagne. Parce que, est-ce que le fait que Zidane mette son fils dans les bus, ça pose un problème ou pas à Madrid.
En Espagne, tout pose un problème. En Espagne, tout est... non, mais en Espagne, on fait un débat avec tout, et encore moins, encore plus quand il y a pas grand-chose à dire parce que le Real et l'Atlético sont éliminés de la Ligue des Champions. Alors, une chose importante, c'est que Zidane a mis son fils qui est troisième gardien parce que Courtois est blessé et parce que Keylor Navas est arrivé en retard des matchs internationaux en traversant le l'Atlantique. Il atterrit vendredi matin et qu'il était totalement décalqué dans le jet lag. Donc, on a le temps d'écouter la petite question que j'ai posée à Zidane ou...
On peut.
Rapide. On peut. Parce que, après, là, ce match où Lucas prend deux buts, mais il est pas responsable sur les deux buts, et fait un match plus que correct, il a montré pas mal de caractère, je pose la question à Zizou en disant, mais est-ce que finalement c'est pas dur de mettre son fils, avec cette peur qu'il y a du candidat à temps? On écoute la réponse de Zizou.
Quand je fais débuter Lucas, je fais pas débuter mon fils. Je fais débuter un joueur de la plantilla du Real Madrid, hein. Enfin, même si c'est mon fils, moi je le regarde comme un joueur, de plus de cette équipe, et c'est tout. Et après, quand on rentre à la maison, on verra, mais là, c'est quand je prends la décision, je me dis que c'est le moment pour lui, une opportunité, parce qu'un joueur est blessé, un autre vient d'arriver de sélection, je pense que c'est le moment pour lui de débuter, et il le fait plutôt bien, parce qu'il a du caractère, il a de personnalité, et c'est un bon gardien du Real Madrid. Je pense qu'il a fait 17 depuis 16 ans qu'il est là. Donc le fait de ça veut dire beaucoup de choses, en fait, le fait qu'on commence avec les jeunes et qu'on puisse arriver. Donc pour lui, c'est certainement de toute façon un jour important.
Bon, moi
non, il est bon, pas en vrai, Fred.
Ouais, il est bon. Et alors dans les airs, il est pas génial, mais au pied,
le fils de Dieu peut ne pas être.
Il a fait quelques sorties bizarres hier.
Non, mais dans les airs, il est pas très bon. Il est assez bizarre, mais au pied, il est très bon.
Il est pas très grand, c'est ça peut-être le
problème. Il est pas très grand, mais voilà.
En fait, le Saint-Esprit, c'est Fred Armel.
Après, il a beaucoup de caractère. Il a notamment fait un dribble face à un attaquant, etc. Puis il a fait une très belle relance.
Non, mais là, moi, il y a quand même un truc, c'est que Zidane, il connaît très bien la musique. Je veux dire, il sait qu'en le faisant, il met un peu quand même en danger son gamin.
Donc, bah non, parce qu'il fait confiance à lui. Confiance parce qu'il fait des entraînements.
Donc moi, je le crois dans son discours, parce que si, il pourrait...
C'est-à-dire que tu pourrais douter de ce que dit Dieu?
Bah, pas souvent, enfin. je crois pas trop en Dieu, mais je peux croire en Zidane.
T'as été complètement
athée. Moi, je suis de l'église herméliste.
Ah, d'accord.
Ah, bravo. Pardon, c'est qu'il y a des sacrifices de vierges dans l'église herméliste.
Bien sûr. Enfin, avec celle que je fréquente, mais.
T'en connais des vierges, toi?
En tout cas, moi, je n'y ai pas assisté.
Ça fait bien longtemps qu'il en a plus vu.
Voilà.
C'est n'importe quoi.
Julien, ricane pas, on sait que tu as le droit des soirées de Londres.
J'aimerais quand même, donc, faut qu'on raconte ce qui effectivement s'est passé en Argentine. Alors, vous savez qu'en Argentine, rien n'est fait comme ailleurs. Donc, on a un championnat, combien l'équipe là? 24?
Ouais, c'est un championnat à rallonge.
C'est n'importe quoi. Et donc, il y a toujours deux champions, phase aller, phase retour. Donc là, eux, ils finissent la phase aller, donc, le fin mars, hein. Voilà. Donc, c'est comme ça, en Argentine, bon. Voilà. Et donc c'est le Racing, club un des clubs mythiques de Buenos Aires, hein, qui joue comme le Racing en France. D'ailleurs, il s'appelle Racing du fait du Racing Club de France. Le Racing en Argentine, bleu ciel et blanc, qui est le club de Lisandro Lopez, qui joue toujours. Le premier
club. Il est
revenu
là-bas. Voilà. Voilà.
Ils font beaucoup ça, les Sud-Américains. Ils reviennent dans leur premier club.
Et ils acceptent de jouer pour trois fois rien, en plus. C'est surtout ça qui est remarquable.
Et donc, en plus, ils gagnent, puisqu'ils ont, ils sont champions depuis hier avec, également Svitanić.
Plus que moins que rien.
Voilà. Et il a été exceptionnel toute la saison. Et la belle histoire, c'est que le directeur sportif, c'est, donc il y a un entraîneur qui est vraiment, vraiment chouette, hein. Koudé, c'est vraiment un bon coach. Je pense que on risque de le voir en Europe dans les années à venir. Et puis, c'est surtout Diego Milito, qui est revenu en tant que directeur sportif du Racing. Alors, tu me demandais lequel c'était. Bah, c'est évidemment Diego, parce que Gabi, son frère, lui, il est de l'équipe adverse, il est de l'Independiente. Donc il y a eu des histoires folles entre les deux, avec la maman qui a dû qui devait les séparer au repas de famille. Alors ils étaient prêts à se mettre sur la gueule, parce que c'est vraiment c'est Boca River, tu vois, c'est Racing Inep, c'est quasiment au même niveau de rivalité. Et donc ouais, non mais c'est un club vraiment qui a une histoire, qui s'est appuyé sur ses anciennes gloires, et c'est vraiment la belle histoire du championnat. Surtout Boca et River ont été minables lors de ce championnat.
Lisandro Lopez, 36 ans, il a marqué 17 buts quand même, le gars.
Et il est beau, hein.
Et il dit quel est mon secret? Je fais une sieste avant les matchs et j'aime aller à la pêche. Voilà. Et puis il dit, par ailleurs, je ne supporte pas quand un supporter me dit je t'aime alors que je le connais pas personnellement.
Lisandro, à l'OL, pour moi, c'est le meilleur joueur des 10 dernières années. Enfin, à post Juninho.
J'ai dit post Juninho. Ouais, non, c'est sûr.
Lisandro, c'est extraordinaire. J'adorais ce joueur.
Son départ alors, oui, était un peu
dire la case, ils ont raison, ils ont eu d'autres super joueurs, mais lui, je sais pas, j'ai une affection
particulière. Bah, il y avait une grinta, quoi.
Ouais, la
rappelez-vous contre le Real. Le petit mot qu'il met dans les vestiaires et tout.
Non, magnifique joueur.
Voilà, c'est fini pour ce soir. Fred, merci. Il y a de la Liga cette semaine, hein.
Il y a de la Liga cette semaine et
puis
il y a des matchs partout.
Le premier gros match de Zidane depuis qu'il est revenu, parce que là il a quand même affronté l'avant-dernier et le dernier. Là il joue à Valence mercredi avec Valence qui joue
à gauche en place
avec les champions. Et là ça va être un match sérieux. On va pouvoir tester l'effet Zidane sur cette équipe.
Merci Fred, merci Julien.
Adios.